Rudolf Steiner est un philosophe. Il est né en 1861 et il est mort en 1925 à l'âge de 64 ans. Il a développé de nombreuses activités autour de sa démarche philosophique que l'on appelle l'anthroposophie, notamment dans le domaine de l'architecture, de la médecine, de l'agriculture en biodynamie et puis aussi donc de la pédagogie. Donc voilà, c'est plus particulièrement la pédagogie qui m'intéresse. Il faut savoir que cette démarche au niveau de la pédagogie est issue d'une rencontre de Rudolf Steiner avec le directeur de l'usine Waldorf à Stroya. C'est pour ça que l'on parle toujours de la pédagogie Steiner-Waldorf. C'était une usine de cigarettes. Et le directeur souhaitait que les enfants de ses ouvriers reçoivent une pédagogie de qualité. Et c'est pour ça qu'il a fait appel à Rudolf Steiner. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je m'intéresse à cette pédagogie et je suis venue vers celle-ci parce que je travaillais avec des jeunes donc en rupture scolaire et je me suis aperçue très tôt que les grandes difficultés de ces jeunes venaient d'un manque au niveau de la petite enfance. Donc pour moi, c'était surtout la pédagogie de la petite enfance qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours, sachant que la pédagogie Steiner va de la naissance jusqu'à l'âge de 21 ans.
Alors, quelle est la particularité de cette pédagogie et est-ce qu'elle est connue en France ?
Donc, en France, elle est connue par certaines personnes qui s'intéressent à cette pédagogie. C'est vrai qu'actuellement, c'est plutôt la pédagogie Montessori qui a le vent en poupe. Maintenant, on a quand même un certain nombre d'écoles qui travaillent avec cette pédagogie. Il y a environ une trentaine d'écoles en France, dont les jardins d'enfants, c'est-à-dire qui accueillent les enfants à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis ensuite, on a des grandes écoles, une dizaine de grandes écoles qui accueillent les enfants jusqu'au bac. Donc certaines écoles préparent vraiment les élèves à passer le bac.
Vous, ce qui vous a le plus intéressé, c'était donc par rapport à la petite enfance. Et quelles sont les clés ? En quoi consiste cette méthode de pédagogie pour les enfants de 0 à 7 ans ?
Ce qui m'a vraiment intéressée, je l'ai touché du doigt lors d'une rencontre dernièrement avec Suzanne Ward, qui est une grande conférencière au niveau international de cette pédagogie Steiner, et qui a introduit sa conférence avec ces quelques mots « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et je me suis dit, voilà quelque chose qui parle à tout le monde, que tout le monde a déjà entendu et qui paraît comme une évidence. En effet, lorsqu'on regarde un enfant, on sent que dans cet être de l'enfant, il y a une dimension qui nous est cachée. Et la pédagogie Steiner, par toute une démarche d'observation, va permettre de rencontrer l'enfant dans cet être profond qu'il habite totalement. Donc une des clés est vraiment l'observation. Les professionnels de la petite enfance ont beaucoup de temps d'observation de l'enfant et surtout ces images d'enfants qui se construisent au travers de cette observation, elles l'emportent avec elles dans la nuit, on appelle ça de cette manière-là, c'est-à-dire qu'elles déposent cette image avant de s'endormir, une image d'un enfant, de manière à ce que le lendemain, elles puissent avoir une évocation un peu plus claire de cet enfant. Cette image de cet enfant va leur permettre de rencontrer l'enfant vraiment dans ses dimensions les plus profondes. Et ainsi, l'accompagnement de l'enfant se fera de la manière la plus juste. Ça, c'est une des clés. Une autre clé va être de partir sur un des aspects des enfants avant 7 ans, qui est le fait que l'enfant est un être d'imitation. Ça veut dire que l'enfant est complètement lié au monde, il fait un avec le monde jusqu'à l'âge de 7 ans, ça tout le monde, tous les psychologues en parlent, chez Montessori c'est aussi très très présent. Et donc nous, ce que ça nous amène à dire, c'est que si l'enfant est un être d'imitation, il va falloir que l'adulte en face de lui soit un adulte imitable. Donc il y a un gros travail aussi du professionnel sur ses gestes, sur sa parole, sur son travail quotidien avec les enfants pour que l'enfant puisse être inspiré, je dirais, par ce que l'adulte lui donne à voir. Ainsi, l'enfant, tout le long de la journée, va faire des expériences de vie en présence de l'adulte qui va lui proposer des activités liées à la vie quotidienne, comme faire le pain ou faire une salade de fruits ou se promener dans la nature, jardiner, etc. de manière à ce que l'enfant puisse rencontrer le monde dans une expérience vivante. Et c'est ça qui va être déterminant pour que l'enfant puisse grandir en toute liberté.
Alors, excusez-moi de vous couper, mais j'ai l'impression que c'est déjà ce qui se passe dans toutes les écoles maternelles.
Alors, ce que l'on peut observer dans les écoles maternelles, c'est que les enfants dans la cour sont sur le goudron et que déjà là, ça les coupe d'une rencontre spontanée avec la nature. Dans les écoles Steiner, on va veiller à ce que l'enfant rencontre les éléments naturels, le bois, la terre, l'eau, l'air, etc. Et très souvent, l'enfant va partir en promenade, va profiter de la nature pour faire des cabanes, pour jouer de manière libre. Une des clés, c'est aussi de laisser le maximum de temps à l'enfant pour qu'il puisse vivre son enfance au travers du jeu libre, qui est un jeu accompagné dans le sens où l'adulte crée autour de l'enfant les conditions nécessaires à l'épanouissement de ses potentialités. Donc il va mettre autour de lui des éléments, comme je l'ai dit, naturels, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On va trouver de la laine naturelle, on va trouver des tissus en matière naturelle, beaucoup de bois, etc. L'enfant va vraiment passer beaucoup de temps à vivre ce jeu créatif. Et on voit au travers de ce jeu créatif comment l'enfant développe aussi des compétences sociales. Parce que c'est au travers du jeu, dans sa rencontre avec l'autre, qu'il crée ses propres règles de vie sociale. Donc ce qui est très différent par rapport à d'autres pédagogies, c'est que l'adulte n'intervient pas pour imposer des règles. C'est l'enfant qui lui-même va construire peu à peu ses propres règles. Alors évidemment, l'adulte est toujours présent pour veiller à ce que ça se passe bien, pour veiller à accompagner les conflits si c'est nécessaire. Mais souvent, les enfants trouvent eux-mêmes leurs propres ressources.
Et qu'en est-il au niveau de l'apprentissage basique de l'écriture, par exemple, ou de la lecture ?
L'enfant, jusqu'à l'âge de 6 ans, va développer surtout des compétences liées à une dimension artistique. Donc l'art est très présent aussi dans le quotidien de l'enfant. Donc on va avoir beaucoup d'ateliers qui vont permettre à l'enfant de peindre, de dessiner et de rencontrer au travers de la peinture et du dessin les couleurs naturelles une fois de plus. Et donc il va habiter petit à petit son geste et il va aussi rencontrer toute la dimension de l'histoire et du conte qui vont développer chez l'enfant un désir de lecture, un désir d'accéder à un vocabulaire riche et varié. Donc il n'y a pas d'enseignement à proprement parler de la lecture ou de l'écriture jusqu'à l'âge de 6 ans. Si l'enfant demande à écrire son prénom, bien sûr, on va lui montrer, il va pouvoir le reproduire, etc. Il n'est pas empêché à écrire, mais il n'y a rien qui est forcé à ce niveau-là. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture se feront de manière beaucoup plus naturelle à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans, où là, l'enfant est tout à fait prêt pour accéder à cet apprentissage-là. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à l'âge de 6 ans, l'enfant a besoin de toutes ses forces pour construire sa corporéité. On dit que jusqu'à l'âge de 7 ans, même voire 9 ans, l'enfant est dans la périphérie. Ça veut dire qu'il n'habite pas encore complètement son corps. Et c'est petit à petit, au travers donc de ce temps qui lui est laissé, qu'il va pouvoir vraiment intégrer ce corps et pouvoir en faire son habitat, on pourrait dire.